Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du score de suspicion. C'est le rapport entre l'administration numérisée et les droits sociaux. Ces 5 dernières années, les connexions obligatoires ont explosé. Prendre un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi, faire une demande de RSA, renouveler des papiers d'identité, valider une autorisation de travail, la moindre démarche administrative requiert un ordinateur, une bonne connexion et une aisance dans son utilisation. Au-delà du seul aspect technique, il faut aussi connaître ses droits, maîtriser le langage administratif et ses codes et réussir à naviguer sur des interfaces qui changent trop souvent. Résultat, en 2021, selon l'INSEE, un adulte sur 3 a renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne. Et ce n'est pas un hasard. La dématérialisation, en effet, sert une politique sociale de réduction des effectifs, de fermeture des guichets, dont les conséquences sont la mise à distance de l'administration et la fragilisation des plus précaires. C'est le triomphe assuré du New Public Management, où les technologies aident à gérer les missions de l'État, comme elles le feraient de la productivité des entreprises. Des pans entiers des services publics utilisent désormais les outils de l'intelligence artificielle pour remplir leurs missions, et soi-disant pour répondre plus vite et mieux aux besoins des citoyens. Mais elles peuvent poser des problèmes si elles ne sont pas correctement encadrées, comme le prévient un rapport de la Défenseure des droits publié mercredi 13 novembre. C'est pourquoi, le 16 octobre dernier, 15 organisations de la société civile, dont la Quadrature du Net, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le Mouton numérique et d'autres, ont attaqué en justice devant le Conseil d'État l'algorithme de notation des allocataires des caisses d'allocation familiale. Pourquoi ? Eh bien, au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Ce ciblage contre une administration est une première. Il dénonce l'algorithme qui attribue à chaque allocataire un score de suspicion mensuel utilisé pour sélectionner les personnes à contrôler. Plus la note est élevée, plus la probabilité d'être contrôlée est grande. L'algorithme analyse les données personnelles des quelque 32 millions d'allocataires et calcule plus de 13 millions de scores. Le scoring négatif augmente en cas de faible revenu, de chômage, pour les mères célibataires, les familles étrangères et tous les bénéficiaires des minima sociaux. Ainsi, les personnes en difficulté se retrouvent surcontrôlées par rapport au reste de la population. La Caisse nationale d'allocation familiale présente cet outil comme un algorithme de lutte contre la fraude. En réalité, pour qu'il y ait fraude, il faut un mensonge intentionnel. Et celui-ci est impossible à traduire en calcul. En revanche, l'algorithme peut identifier les personnes les plus susceptibles d'avoir reçu des indus ou des trop perçus, c'est-à-dire des sommes supérieures à ce que le calcul de leurs droits leur destine. Et voici comment, sous couvert de lutter contre la fraude, on traque systématiquement les allocataires les plus fragiles. On a pu analyser le code source de l'algorithme utilisé par la CNAF. Cela a confirmé sans ambiguïté sa fonction discriminatoire. Les critères choisis et leur pondération ciblent de façon délibérée les personnes les plus précaires. En assimilant précarité et soupçon de fraude, cet algorithme participe donc d'une politique d'hypersurveillance et de stigmatisation des plus défavorisés. Les contrôles s'accompagnent régulièrement de suspension du versement des prestations, de demandes de remboursement non motivées, voire de privation de ressources, et cela en toute illégalité. Quant aux voies de recours, comme d'habitude, elles sont le plus souvent incompréhensibles et inaccessibles. Et France Travail s'y est mis à son tour. L'ancien Pôle emploi multiplie les expérimentations de profilage algorithmique des personnes sans emploi. Son directeur affirme que l'intelligence artificielle est utilisé comme un simple outil d'aide à la décision pour les conseillers et comme un moyen de leur libérer du temps administratif. L'efficacité financière sera-t-elle assurée? On peut en douter. En revanche, les ravages de l'inéquité sont bien au rendez-vous. Les mobilisations s'intensifient donc pour faire interdire ce type de pratique et alerter sur la violence dont sont porteuses les politiques dites de lutte contre la fraude sociale. C'est ni plus ni moins que la double peine appliquée aux titulaires de droits sociaux. Les critères choisis et leur pondération ciblent de façon délibérée les personnes les plus précaires. En assimilant précarité et soupçon de fraude, cet algorithme participe donc d'une politique d'hypersurveillance et de stigmatisation des plus défavorisés. Les contrôles s'accompagnent régulièrement de suspension du versement des prestations, de demandes de remboursement non motivées, voire de privation de ressources, et cela en toute illégalité. Quant aux voies de recours, comme d'habitude, elles sont le plus souvent incompréhensibles et inaccessibles. Et France Travail s'y est mis à son tour. L'ancien Pôle emploi multiplie les expérimentations de profilage algorithmique des personnes sans emploi. Son directeur affirme que l'intelligence artificielle est utilisé comme un simple outil d'aide à la décision pour les conseillers et comme un moyen de leur libérer du temps administratif. L'efficacité financière sera-t-elle assurée? On peut en douter. En revanche, les ravages de l'inéquité sont bien au rendez-vous. Les mobilisations s'intensifient donc pour faire interdire ce type de pratique et alerter sur la violence dont sont porteuses les politiques dites de lutte contre la fraude sociale. C'est ni plus ni moins que la double peine appliquée aux titulaires de droits sociaux.